Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Voilà donc notre contre-histoire d'aujourd'hui. Alors, nous en étions où? L'affaire Cahuzac et les menaces consécutives sur Mediapart ont donné un diagnostic retentissant de la vitalité de notre démocratie. On aurait pu espérer que les révélations sur de nouvelles affaires touchant des parlementaires de tous bords laisserait entrevoir l'espoir d'un éventuel assainissement de notre vie politique. Las, que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le Dassault qui gagna. Et non seulement son immunité parlementaire qu'il conserve, alors qu'il a reconnu avoir acheté les électeurs de son fief, mais encore une petite prime pour calmer le stress qu'aurait pu lui causer la cérémonie du vote du bureau du Sénat. Une bricole, une aumône, un tout petit geste. Dame, en ces temps de disette, on ne peut pas faire plus. Un petit milliard d'euros seulement, destiné à relouquer le fantabuleux Rafale dont aucun pays du monde ne veut. Mais rassurez-vous, il paraît que François est très courroucé de l'évolution de l'affaire. Il va sûrement le mettre en quarantaine, le Sergio, comme on dit, dans le milieu. Je ne peux pas m'empêcher de vous communiquer ce que le Canard enchaîné racontait hier à ce sujet, au cas où vous n'auriez plus trouvé le volatile chez votre marchand de journaux préféré. Auparavant, petit rappel des faits. La question était donc de voter pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire du Dassault, virtuose récidiviste des fraudes électorales, qui l'ont déjà interdit de candidature municipale par décision du Conseil d'État en 2009. Laquelle interdiction il a joyeusement contournée en se faisant remplacer à la mairie de Corbeil-Essonnes par un toutou dévoué à son maître. C'est pour faire élire le toutou en question qu'il a encore fait son marché à prix d'or parmi les électeurs de Corbeil. Sans vouloir charger ni la mule ni le toutou, on peut s'étonner qu'un sénateur ait conservé son mandat après avoir été convaincu une première fois de fraude. Peut-être il avait promis qu'il ne recommencerait plus. Maintenant, appel à tous les matheux disponibles. Attention, ardu calcul de probabilité et de statistiques conjuguées, rien que ça. Sachant que le bureau du Sénat compte 26 membres, dont 9 PS, 3 PC, 1 vert et 1 radical, c'est-à-dire 14 sénateurs de la majorité présidentielle, les 12 autres étant de l'opposition caractérisée, sachant en outre que le résultat du scrutin à bulletin secret a donné, contre toute attente, le résultat suivant. 12 votes pour la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. 13 votes contre cette levée d'immunité et une abstention. Le problème à résoudre pour cette épreuve du certificat d'études citoyennes est: quel est le prix d'un sénateur réputé de gauche? Vous pouvez envoyer vos calculs rue de Solferino. Prenez bien soin de noter en biais dans l'angle gauche de l'enveloppe « Suicide du Sénat ». Ça permettra le traitement en urgence. Le premier gagnant aura l'honneur et l'avantage d'aller consoler Madame Trierweiler sur son lit d'hôpital. La première gagnante aura la chance de la remplacer à l'Élysée. Et voilà donc l'article du Canard, où se cachent peut-être quelques indices. Écoutez bien. Après avoir acheté les électeurs de Corbeil-Essonnes, Serge Dassault s'est donc payé le Sénat. Par 13 voix contre 12 et une abstention, le bureau de la Chambre haute a refusé, le 8 janvier, de lever l'immunité du sénateur UMP. La gauche y est pourtant majoritaire. 9 PS plus 3 PC plus 1 vert, auquel il faut ajouter le représentant des radicaux. À peine le résultat rendu public, François Hollande a téléphoné à Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. « Il voulait des explications, » raconte un témoin de la scène. « Il était furieux et cherchait à savoir qui avait trahi son camp. » Il peut chercher encore longtemps. Il est un peu plus de 10 heures lorsque Bell ouvre la séance dans la salle de réception, au premier étage du petit Luxembourg, présidence du Sénat. À l'étage en dessous, jusqu'à l'automne 2011, Dassault disposait d'un bureau. Juste avant d'ouvrir la réunion, le socialiste a fait passer la consigne à ses collègues de gauche. « Ce coup-ci, pas de bêtises !» En juin 2013, les parlementaires avaient refusé de lever l'immunité de Dassault. En s'installant autour de l'imposante table rectangulaire, les sénateurs découvrent chacun une copie du dossier transmis par la chancellerie, qu'ils ne peuvent emporter, secret de l'instruction oblige. Ils apprennent ainsi que Dassault a fait transiter 18 millions d'euros vers le Liban. Des petits jeunes de Corbeil dans le besoin, dévoués agents électoraux, toucheront respectivement 1,2 et 2 millions d'euros. Bell donne tout de suite la parole au rapporteur Jean-Léonce Dupont. Au Sénat, le centriste fait figure de sage. À l'entendre, raconte l'un des présents, il n'y a guère de doute, la levée doit être votée. Mais, contre toute attente, Dupont ne conclut pas, laissant chacun se faire son opinion.
« Il est centriste et normand, » l'excuse un sénateur.
Puis, c'est Raffarin qui ouvre le feu. Son plaidoyer est préparé, millimétré. Il fait valoir que les juges n'ont ni convoqué ni mis en examen Dassault. Les magistrats, affirme l'ex-premier ministre, laissent au sénateur le soin de faire le sale boulot. Pour finir, l'élu de la Haute-Vienne assène. Si on lève l'immunité, on le condamne. Marie-Noëlle Lindemann se charge de lui porter la contradiction. Dire que lever l'immunité, c'est condamner, revient à dire que ne pas la lever, c'est blanchir. Cette logique est absurde. Marie-Hélène Desesgaux, élue UMP de la Gironde, considère que la mise en examen doit être un préalable à la levée d'immunité. « Faux !» réagit Bell, en sortant son code de procédure pénale. Lisant l'article 152, il précise que les flics ne pourront plus entendre Dassault une fois ce dernier mis en examen, ni a fortiori le confronter à un tiers. Le débat est clos. Place au vote. Les 26 élus disposent d'un bulletin où sont écrits ces mots « pour »,« contre » et « abstention ». La consigne est claire. En rayer deux, en entourer un. Le vote se passe assis. C'est l'urne qui se promène, transportée par des huissiers. Arrive le dépouillement. « On a compris tout de suite qu'il se passait quelque chose », raconte un sénateur. Les 5 premiers bulletins dépouillés portaient l'inscription « contre ». Lorsqu'il annonce le résultat, Bell est défait. Il était blanc, livide, témoignent plusieurs sénateurs. J'ai vécu la pire journée de ma vie de président, confirme l'Ariégeois. Les socialistes et l'écolo Jean Desessard l'entourent. Ce dernier claironne. J'ai voté pour, j'ai voté pour. Dans le même style, c'est pas moi, monsieur, le radical François Fortassin fonce vers Bell pour lui assurer qu'il a bien voté. On s'est tous regardés, raconte le vice-président, Didier Guillaume. Tout le monde soupçonnait tout le monde. C'était terrible. Certains regards se tournent vers les 3 communistes. Faut surveiller la pub Dassault dans l'UMA. La chasse aux traîtres est ouverte. Alain Anziani, n'est-il pas l'élu d'un département où est implantée une usine Dassault Aviation? Desessard, n'est-il pas le copain de Placé, lui-même pote de Sergio? Parmi les membres du bureau, ne se trouve-t-il pas des adeptes de la chasse qui aiment faire le coup de fusil sur les terres giboyeuses de l'industriel? Enfin, et plus simplement, certains ne se sont-ils pas trompés en remplissant leur bulletin? François Rebsamen, qui n'est pas membre du bureau mais président du groupe PS, prend les choses en main. Il se charge de poser la question de confiance à chacun des 9 socialistes. Tous lui jurent avoir bien voté. Comme Bell, le maire de Dijon a droit à un coup de fil de Hollande. Rebs obtient du chef de l'État le feu vert pour réclamer publiquement la fin du secret du vote et de l'immunité parlementaire. La colère de Hollande n'est pas apaisée pour autant. Quelques heures après le vote du Sénat, il reçoit les vœux de l'armée à Creil. Sitôt son discours prononcé, il salue les parlementaires présents. Parmi eux, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, à qui il glisse « Bravo pour le vote sur l'immunité de Dassault, c'est du joli !» 48 heures plus tard, l'État accorde une rallonge de 1 milliard d'euros à Dassault Aviation pour moderniser le Rafale. Comme dirait Hollande, c'est du joli. Un peu de musique pour s'aérer. We'll be right back. Nous en sommes là, à 5 mois des élections. Mediapart nous apporte des témoignages et des points de vue, comme d'habitude, très éclairants. Voilà ce que lui a raconté un ancien agent de Dassault, sorti du système, et qui a eu le courage de témoigner à voix haute. L'enregistrement est diffusé sur Mediapart, mais pour vous éviter les bourdonnements de mon mini-enregistreur, je vous lis le texte. Le système Dassault raconté de l'intérieur. Un habitant de Corbeil-Essonnes décortique pour Mediapart le système Dassault auquel il a participé avant d'être lâché. Alors que le sénateur milliardaire est convoqué par les juges le 2 octobre dans une enquête criminelle, Atman livre dans un long témoignage sonore les détails, les circuits financiers et les arrangements du système D. Des comme Dassault. Et il en appelle à la justice, son témoignage mettant aujourd'hui sa vie en danger. J'ai grandi avec M. Dassault, autour du monde de M. Dassault. Je n'ai connu que le monde Dassault. Atman, 32 ans, est un ancien témoin devenu un acteur de ce qu'il nomme le système D. Il a goûté à l'argent du sénateur, en particulier lors des élections municipales, pour inciter des habitants à voter pour l'avionneur. N'ayant pas été payé pour les élections de 2010, il détaille et dénonce aujourd'hui ce système dont Serge Dassault reconnaît l'existence dans les enregistrements que Mediapart a rendus publics. Atman a demandé que son prénom soit modifié pour des raisons de sécurité, car il sait très bien ce qu'on risque quand on dénonce le système Dassault. Quand on enraye une machine qui a notamment fait la fortune de tous, dont certains malfrats. Un ami de sa bande, un des deux hommes qui faisait face à Dassault lors de l'enregistrement, s'est en effet fait tirer dessus 3 mois plus tard, en février 2013. Il a réchappé par miracle aux balles qui ont été tirées, selon des sources policières, par un certain Younes. Précisément l'homme qui n'aurait pas redistribué correctement le 1,7 million d'euros versé par Dassault pour les seuls quartiers sud de la ville. Les avocats de Serge Dassault, maître Pierre Haïk et Jean Veille, ont annoncé lundi 16 septembre la convocation du sénateur le 2 octobre comme témoin assisté par les juges d'Evry qui enquêtent sur cette tentative de meurtre. Initialement, les juges voulaient l'entendre sous le régime de la garde à vue. Mais le bureau du Sénat s'était déjà opposé à la levée d'immunité du milliardaire. Conscient de la nécessité de crédibiliser son témoignage, Atman a cependant accepté que sa vraie voix soit diffusée dans cette longue interview qui constitue une mine d'informations précises et documentées permettant de détailler une machine que le Canard enchaîné, Libération et Le Parisien avaient déjà commencé à décrire. Atman a rencontré pour la première fois Serge Dassault en 1996. À l'époque, le milliardaire vient de remporter en 1995 les élections municipales de Corbeil-Essonnes, une ville qu'il traverse régulièrement pour se rendre sur son terrain d'aviation de Melun-Villaroche et dont il veut faire une vitrine de ses engagements politiques. Il veut, par la même occasion, prouver à ses détracteurs qu'il est capable de réussir sans héritier. Serge Dassault est le fils de Marcel Dassault, lequel a créé la société Dassault Aviation, avec le succès que l'on sait. Et les relations entre le père et le fils étaient loin d'être bonnes. Cette victoire, il la savoure d'autant plus qu'il met fin, du coup, à 33 ans de communisme. Ville ouvrière de 42 000 habitants, Corbeil ne s'est pas relevé de la crise économique. À son arrivée, le nouveau maire promet de tout moderniser, de se servir de son carnet d'adresses et de son savoir-faire de businessman pour relancer l'économie de la ville. 18 ans plus tard, Serge Dassault n'a pas fait revenir l'emploi. Le taux de chômage est passé de 9,7% à 13,8%, allant même jusqu'à 40% dans certaines cités. Pourtant, SD, comme l'appellent les jeunes de Corbeil, est parvenu à garder la ville sous son giron. C'est comme chez Coluche. Chez Coluche, vous avez des pâtes, du riz, des tomates, des pommes de terre, du pain et des raviolis. Eh bien, chez Monsieur Dassault, vous avez des billets de 100, des billets de 200, des billets de 500, du bien immobilier. Et Monsieur Dassault, on ne peut pas dire que c'est Picsou. Il est généreux envers les habitants de Corbeil-Essonne, qui, en échange, le lui rend de bien lors des élections, comme le raconte Atman. Atman explique avoir peur, parce qu'il dénonce un système par lequel des générations et des générations de personnes ont touché de l'argent. À cause de nous, tout ça va s'arrêter. Selon lui, tous les gens qui sont à Corbeil ont goûté à l'argent de M. Dassault. Pourquoi le dénoncer? On n'a pas été rémunérés, on nous a négligés, on nous a maltraités. Et c'est pas bon de faire des promesses qu'on ne veut pas tenir. En 2009, c'est au Pinson, le QG électoral de Dassault à Corbeil-Essonne, que les habitants sont invités à déposer leurs demandes en tout genre. Ils défilent dans le bureau de SD et les enveloppes sont distribuées. En 2009, Atman fait la connaissance des lieux lors de l'entre-deux-tours des élections municipales. À l'époque, il demande une somme modeste, 10 000 euros. Dans cet extrait, Atman parle de Jacques Le Bigre comme de l'homme de main de Serge Dassault. Ancien militant du SAC, Jacques Le Bigre. Le SAC, les anciens se souviennent peut-être que c'était le service d'action civique gaulien qui a été rendu célèbre par la tuerie qu'il avait opérée à Auriol, où une famille avait eu la mauvaise fortune de se trouver témoin d'autres basses œuvres du SAC, Service d'action civique gaulien. Donc, M. Jacques Le Bigre, ancien militant du SAC, ancien directeur de cabinet de Serge Dassault à Corbeil et secrétaire départemental de l'UMP de l'Essonne, est le fidèle parmi les fidèles, surnommé à Corbeil-Essonne le porteur de valises. Lorsque Serge Dassault remet l'argent à Atman, celui-ci ne prend pas la peine de vérifier la somme devant le milliardaire. Quand on est devant, on est réservé, on a un peu honte, on se croit pas tout permis devant lui. On va pas lui dire « Ah non, monsieur, vous rajoutez une autre enveloppe ». Un BEP d'électrotechnique en poche, après quelques petits boulots et un détour par la case prison pour trafic de drogue, Atman est approché par l'équipe d'assaut pour réaliser un travail. Certes particulier, mais lucratif. Atman explique qu'on est venu le chercher. On était soi-disant des voyous. Ils voulaient acheter la paix sociale. Ils sont venus vers nous. Ils nous ont fait des promesses. Ils connaissaient ma situation. Ils m'ont dit « On peut t'aider ». Nous, on n'est jamais venu taper à la porte de SD. C'est SD qui est venu et qui veut s'entourer de gens comme nous. SD veut récupérer les plus agressifs, ce qui fait qu'on devient tous des loups. On se dit qu'en étant brebis, on va se faire bouffer, qu'en étant calme, on n'aura rien, et en étant voyou, là, vous achetez une crédibilité. À la tête de la ville de 1995 à 2009, Serge Dassault a dû confier les rênes de la commune à son bras droit et employé de son groupe de presse, Jean-Pierre Bechter, à la suite de l'invalidation par le Conseil d'État en juin 2009 de la municipale de 2008 pour don d'argent. Inéligible, il présente donc son poulain qui remporte les élections en 2009 de 27 petites voix. À l'époque, le mot d'ordre lors de la campagne dans les cités des Tarterets, de la Nacelle ou de Montconseil est clair. Voter Bechter, c'est voter Dassault. Mais, en mars 2010, le scrutin d'octobre 2009 est lui aussi annulé, au motif que Serge Dassault figurait sur les bulletins de vote de Bechter. Il faut repartir en campagne. Et cette fois, Atman est pleinement de la partie. Il raconte le démarchage et décortique comment la victoire a été rendue possible. On leur expliquait que s'ils avaient besoin de quelque chose, d'un changement de logement, d'un appartement plus grand, un travail au SMIC dans les espaces verts ou dans le milieu associatif, il fallait voter Dassault. C'est tout simple. Il faut cependant faire le travail jusqu'au bout. Monsieur Dassault ne paye qu'une fois le résultat obtenu. Si les gens ne font pas ce qu'il faut dans l'isoloir, personne n'a sa part. Et après la victoire, il faut attendre. Les liquidités arrivent au bout de 9 mois, 10 mois ou plus. En 2010, on me fait ouvrir des comptes. On m'a fait une promesse. Cette promesse n'a pas été tenue. Sans détour, Atman accuse Younes, le bras armé de Serge Dassault, de ne pas avoir redistribué l'argent comme convenu. Ancien habitant de la cité des Tarterets, Younes fait figure de caïd pour certains, de toutou pour d'autres. Il reste un des principaux bénéficiaires du système D, système qui lui aurait permis notamment de devenir propriétaire d'un café et d'une entreprise à Corbeil-Essonne. Il a jugé bon de ne pas payer un petit quartier comme le mien. C'est pour ça qu'on n'a pas été réglé. Tout avait été pourtant préparé. Pour être rémunéré, il est demandé aux petites mains du système d'ouvrir des comptes à l'étranger. Dans l'enregistrement, Serge Dassault lui-même évoque le Liban, une piste déjà retenue dans le cadre de l'enquête de la brigade de répression de la délinquance sur la personne. Ouverte à Paris en avril 2012, suite à la plainte déposée par la fille de Serge Dassault, Marie-Hélène Haber, et de son frère Laurent pour harcèlement. Un habitant de la cité des Tarterets, aujourd'hui en Belgique, aurait en effet récupéré dans une banque au Liban une somme d'argent importante provenant d'un compte lié à Serge Dassault. Les sommes en jeu font tourner les têtes. Mon père a travaillé toute sa vie. Il a juste eu de quoi payer ses factures et ci et ça, faire grandir ses enfants et basta. Et avoir 1 000 euros pour son enterrement. Vous imaginez maintenant, quelqu'un vient et vous propose 100 000 euros? Dans ces conditions, il n'est pas difficile d'obtenir des voix. J'allais voter à droite. Parce que c'est un système de corruption, tout en sachant que la droite, elle prend les immigrés avec des pincettes. On se fait plus la guerre, on sait comment prendre l'argent, on attend les élections. La paix entre quartiers est le seul point positif que trouve Atman au système, ce qui ne l'empêche pas de s'interroger sur sa fin. On se retrouve avec un milieu associatif et un milieu éducatif dans le chaos total. Quand tout ça sera fini, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes? Les employeurs leur demanderont « Vous n'avez rien fait pendant 10 ans ?» On a investi à plusieurs dans une caméra cachée et on les a piégés. Fin 2012, Atman et ses acolytes parviennent indirectement à piéger un certain nombre d'élus. Ils veulent utiliser ces bombes, mais obtenir en échange une protection pour ne pas être pris pour cible. En janvier 2013, on a vu les policiers de Nanterre. On leur explique la tension. On leur dit que des vies sont en danger. Je leur dis qu'on a d'autres preuves à leur disposition, mais seulement si on a une protection d'éloignement. La police nous répond qu'ici, c'est pas l'Amérique. Un mois plus tard, un de leurs amis qui avait piégé Dassault se fait tirer dessus par Younes, l'homme qui n'a pas redistribué l'argent comme convenu. Ils l'ont massacré pour rien, et on ne veut pas que ça se reproduise. C'est pour ça qu'on demande des garanties. Cela fait plusieurs années que Pascale Pascariello, journaliste indépendante à France Inter, France Culture, Canard Enchaîné, Arte Radio, travaille à Corbeil-Essonne sur le système d'assaut. Plusieurs personnes qui tentent de dénoncer le système d'assaut ces dernières années ont été victimes d'intimidations physiques ou, pire, de tentatives de meurtre. C'est le cas notamment des deux habitants de Corbeil-Essonne qui ont réalisé en novembre 2012 un enregistrement de Serge Dassault, durant lequel le sénateur admet avoir acheté l'élection municipale de 2012. Vite, 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 un peu de musique. Ouh là là. Depuis longtemps déjà, certains veulent supprimer le Sénat. Cette idée avait été fatale à De Gaulle. Elle a été reprise, plus récemment, par d'autres mouvements citoyens, tant au nom du budget de l'État. Un sénateur coûte tout de même quelque 20 000 euros mensuels. Que pour améliorer l'efficacité du système législatif. On nous apprend, bien sûr, que le bicamérisme est la ceinture de sécurité de la démocratie. Nous venons d'avoir la démonstration du contraire. Notre système est faillible, corruptible, désuet et dangereux. Combien vaut un sénateur? Quel sera le prix de l'enterrement du PS? Et je vais vous transmettre encore les réflexions désabusées de François Bonnet, qui sont parues le 9 janvier sur Mediapart. Ça s'appelle « La République insultée ». C'est le moins qu'on puisse dire. En refusant pour la deuxième fois la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault, le Sénat barre la route à la justice. Choix catastrophique, qui montre combien une large partie des politiques n'admettent toujours pas de devoir rendre compte aux citoyens comme aux juges indépendants. Le Sénat a donc refusé à la justice la levée de l'immunité parlementaire du sénateur UMP et homme d'affaires Serge Dassault, pour la deuxième fois en 6 mois. Ce 8 janvier, à la différence de juillet 2013, le parquet appuyait la demande de levée d'immunité formulée par les juges d'instruction sur la base d'éléments multiples, accréditant une corruption massive et un système mafieux d'achat de votes à Corbeil-Essonne sur fond de règlement de comptes criminels. Le choix fait par le bureau du Sénat, dont les membres sont protégés par le secret du vote, et à travers lui par la chambre haute du Parlement, où la gauche détient la majorité, est une insulte à la République et à l'un de ses principes premiers, la séparation des pouvoirs. Quand, après l'affaire Cahuzac, après l'adoption d'une loi sur la transparence et la moralisation de la vie politique, la classe politique vienne ainsi se mettre en travers de la justice, est un désastre démocratique. Le système, le symbole est clair. Une large partie des responsables politiques estiment ne pas avoir de compte à rendre à la justice et utilisent tous les moyens institutionnels à leur disposition pour y échapper. Il y a quelques semaines, des manifestations spontanées ont eu lieu durant plusieurs jours en plein centre de Bucarest. Il s'agissait pour les citoyens roumains de protester contre l'adoption d'une loi qui installait de fait une immunité inviolable des responsables politiques. La France, toujours prompte à dénoncer la corruption et les retards roumains, présente aujourd'hui ce même visage hideux, d'élus campés sur leur impunité, refusant cette justice des citoyens. Le raisonnement tenu par Serge Dassault et par ceux qui l'ont soutenu est toujours le même. Celui entendu depuis bientôt 40 ans au fil des affaires politico-financières et de ces grands scandales de corruption mettant en cause parlementaires et ministres. Un régime d'immunité est une protection nécessaire. Elle garantit la liberté du parlementaire, sa liberté d'expression et d'initiative des lois. Elle met les hauts responsables de ce pays à l'abri des règlements de compte et des manipulations judiciaires, pour ne pas parler des excès de zèle des « juges rouges ». Michel Poniatowski, sous Giscard, le disait déjà, Serge Dassault le répète aujourd'hui, comme il y a quelques mois, le sénateur socialiste et président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Et les deux hommes ajoutent sans rire, « Ils sont bien sûr tout disposés à être convoqués et entendus par les juges ». Ce que n'empêche nullement cette fameuse immunité. C'est oublier l'essentiel. que cette immunité prive les juges de moyens décisifs d'enquête, par exemple la garde à vue, le contrôle judiciaire et la détention provisoire. Dans le cas précis de Serge Dassault, la levée d'immunité demandée par les juges Tournaire et Daïef en charge du volet financier des scandales de Corbeil leur aurait permis de placer le sénateur en garde à vue et de perquisitionner ses bureaux. Des mesures de contrôle judiciaire auraient pu lui interdire de rencontrer les nombreux protagonistes d'affaires dont la gravité est telle qu'elles font par ailleurs l'objet de 3 informations judiciaires distinctes. À ce stade, après plusieurs mois d'enquête, le parquet a choisi de soutenir la demande des juges, estimant qu'il devait être en mesure de déployer tous les moyens nécessaires pour progresser, ce qui exclut la thèse d'un acharnement des magistrats à l'encontre de Serge Dassault. Car les faits aujourd'hui laissent entrevoir un système de corruption à grande échelle pour emporter les élections municipales de Corbeil-Essonne. La publication par Mediapart en septembre dernier d'enregistrements dans lesquels l'avionneur reconnaît avoir mis en place un système d'achat de voix a accéléré les enquêtes en cours. La police, Division nationale des investigations financières et fiscales, s'est saisie de ces enregistrements. Parallèlement, des investigations ont été lancées concernant des comptes bancaires de l'avionneur au Liban, par où auraient transité plusieurs versements d'argent. Enfin, dans une autre affaire de Corbeil, criminelle cette fois, Serge Dassault a été entendu en octobre dernier sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une enquête sur une tentative de meurtre. Les 26 membres du bureau du Sénat ne peuvent ignorer la gravité des faits visés par l'enquête et des soupçons pesant sur le milliardaire. Le refus réitéré de laisser travailler les juges ne renvoie pas seulement à cette consternante habitude des politiques de jouer de toutes les procédures pour se soustraire à la justice. Les conditions du vote, 13 voix contre la levée, 12 pour et une abstention, ce qui laisse supposer au moins 2 défections dans la majorité de gauche, les conditions de vote laissent entrevoir la puissance de Serge Dassault, installé au cœur du pouvoir depuis près de 30 ans. La France est-elle si loin de l'Italie, où Silvio Berlusconi a pu, durant des années, acheter des voix de parlementaires pour empêcher des levées d'immunité ou faire adopter des lois sur mesure lui permettant d'échapper aux juges et aux procès? Tout à la fois milliardaire, avionneur, marchand d'armes, patron de presse et parlementaire, la puissance politique de Serge Dassault va bien au-delà des frontières du seul département de l'Essonne. Interlocuteur permanent du gouvernement et de l'Élysée, ayant gravi tous les échelons de la politique, conseiller général, maire, député, sénateur, ses capacités d'influence et de pression demeurent intactes. C'est une mauvaise nouvelle pour les citoyens, tant elle vient confirmer la faiblesse de la justice française et de tous les possibles contre-pouvoirs. Au début des années 90, quelques retentissantes affaires, Urba, la Lyonnaise des Eaux, Carignan, Michel Noir, Mouillot, Parti républicain, avaient laissé espérer que les juges parviendraient enfin à s'émanciper de la tutelle politique. Les 15 ans de procédure des affaires de la ville de Paris, les 6 années de procédure visant Jean-Noël Guérini, la Cour de justice, dont la fonction première est de ne jamais aboutir, le démantèlement des moyens des brigades financières montrent combien il faut, plutôt que de progrès, parler de régression dans la lutte contre la corruption et les financements illicites. La difficulté des nombreux juges saisis des affaires mettant en cause Nicolas Sarkozy, Karachi, Bettencourt, Libye, vient confirmer cette impossibilité française à construire une justice indépendante et efficiente. Il est ainsi assez aisé au syndicat de la magistrature de dénoncer après cette décision du Sénat une justice d'exception où les parlementaires se protègent entre eux du déroulement normal d'investigation pénale. Il est inadmissible dans un état de droit fondé sur la séparation des pouvoirs et l'indépendance de l'autorité judiciaire que perdure ainsi un régime permettant au pouvoir législatif de faire obstruction au fonctionnement de la justice. De son côté, Anticor, Anticorruption, association de magistrats, s'élève contre cette décision qui jette le discrédit sur l'ensemble de la classe politique et porte atteinte au fonctionnement de la justice. Face à cette situation délétère, François Hollande et le gouvernement n'ont procédé qu'à quelques arrangements cosmétiques. Les travaux de la commission Jospin ont été rangés au fond du tiroir. L'indépendance du parquet n'est pas à l'ordre du jour. La suppression de la Cour de justice est une promesse oubliée. Le procureur financier est à ce jour sans moyens. Sans parler du recul opéré par l'exécutif sur la publicité des déclarations de patrimoine des élus. Le scandale Dassault vient ainsi le souligner jusqu'à la caricature. En se refusant à faire des responsables politiques des justiciables comme les autres, le Parlement et l'exécutif ne cessent d'alimenter la crise d'un régime à bout de souffle. Et on vient de me passer Charlie Hebdo qui fait un article tout à fait passionnant sur cette histoire de Dassault et d'immunité parlementaire. Alors, si vous allez chercher le canard, n'oubliez pas Charlie Hebdo. Vous verrez que je ne vous raconte pas de salade. Au fait, le Sénat, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une assemblée de 348 membres, élus au suffrage indirect, c'est-à-dire par les grands électeurs, ceux qui ont déjà été élus par le suffrage universel direct, c'est-à-dire conseillers municipaux, maires, députés, conseillers généraux. Voilà. Élus pour 9 ans, renouvelables par tiers tous les 3 ans, ce qui confère à la dite assemblée une stabilité quasiment immuable. Sauf que, aux dernières sénatoriales, on a assisté à une bascule à gauche. Fait que je n'avais, malgré mon grand âge, jamais vu. Ah, la jolie bourrasque d'air frais à ce changement de majorité-là. Et voilà ce que c'est devenu. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat propose, discute et vote les lois, qui se promènent d'une chambre à l'autre, jusqu'à ce que consensus s'en suive. Quoique, si le petit jeu des amendements bidons, sport parlementaire très pratiqué, si ce petit jeu donc dure trop longtemps, c'est finalement l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Moralité, à quoi sert le Sénat? À empêcher que la majorité des 577 députés votent n'importe quoi pour conserver leur confortable siège. C'est vrai que c'est pas mal les indemnités de députés. Ça vaut bien de fermer les yeux sur quelques dérives présidentielles ou gouvernementales du genre ordonnance, article 16 ou autres décrets autoritaires. Mais le Conseil constitutionnel ne joue-t-il pas déjà ce rôle de garde-fou? Si, et il est même fait pour ça. Mais on n'est jamais trop prudent. Surtout avec des membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le pouvoir. 9 membres, dont 3 sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, donc côté gouvernemental, 3 autres par le président du Sénat, et les 3 derniers par le président de la République. Avec en prime tous les anciens présidents de la République capables d'aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans ces conditions? Dans la rue citoyen! Vive la 6e République! Merci de votre écoute.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses deux?